On va vous faire entendre le premier ministre François Legault à tout le moins quelques extraits parce que le point de presse d'aujourd'hui à 13h était important. On est rendu à plus de 4000 cas. Oui. C'est la plus grosse augmentation depuis le début. C'est près de 700 cas de plus, si je ne m'abuse.
Exact.
Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. L'autre, c'est que d'ici peut-être 3 jours, peut-être 7 jours, dépendamment, on pourrait manquer de matériel médical. On en a encore jusqu'à dans 3 ou 7 jours. Mais là, il y a des commandes qui peuvent arriver entre-temps, le PM le dit, mais on va se croiser les doigts. Donc, Jean-Simon, c'est pas vraiment des nouvelles encourageantes qu'avait annoncé M. Legault aujourd'hui.
Commençons justement par ça, la situation du matériel présentement dans les hôpitaux pour les travailleurs de la santé. On peut écouter le premier ministre François Legault et la ministre de la Santé, Danielle Mécan, à ce sujet.
Je veux aujourd'hui être clair, je veux vous dire la vérité. Pour certains équipements, on en a pour 3 à 7 jours. Donc, c'est quand même serré. Par contre, on a des commandes devraient arriver dans les prochains jours et on a bon espoir d'être capable de passer au travers. Là. Donc, je ne veux pas inquiéter personne.
Il faut vous dire là qu'actuellement, on utilise 10 fois plus d'équipement qu'en temps normal. Alors, ce qu'on utilisait en une année, on l'utilise en 4 semaines à peu près.
Ce que Mme Mécan dit, c'est vrai, puis on est compréhensif, on comprend ça. En même temps, le PM a ajouté que l'Ontario va nous en envoyer.
Oui.
Imaginez la situation inverse. Mettons que c'est Doug Ford qui appelle François Legault, puis il en envoie. Quand on a appris que Trudeau avait envoyé du matériel médical en Chine, ça n'a pas bien passé partout, là, vous en souvenez?
Mm-hmm.
Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Bon. Je pense pas qu'on en a parlé beaucoup, là, mais j'ai vu passer sur les médias sociaux que des gens ont contesté ça. C'est tel que tel. Là, c'est l'Ontario qui aide le Québec, là. Alors, eux autres, ils doivent en utiliser aussi beaucoup, des masques, non?
J'imagine. Ils ont plus de décès que nous autres.
Ben oui.
Alors, quand Mme Mécan dit, c'est parce qu'on en utilise beaucoup, eux aussi en Ontario, puis ils nous en envoient, puis ils vont nous aider. Autre extrait.
Oui, bien, c'est ça. Évidemment, là-dessus aussi, là, ils ont confirmé que les masques N95, les fameux masques qui sont utilisés là, comme mesure d'urgence, vont être désinfectés pour servir à plus d'une reprise. Mais là, le Collège des médecins s'inquiète de la situation puis se demande si les médecins puis les autres professionnels de la santé vont être obligés de traiter des malades. Tu l'évoquais un peu tantôt, là, ouais. Sans protection. On peut écouter François Legault là-dessus.
Pour l'instant, il n'est pas question qu'on demande à qui que ce soit de procéder à des actes sans être protégé. Là. Donc, on n'est pas là. On vous dit que c'est serré, travaille très fort sur les commandes, travaille très fort avec l'Ontario, travaille très fort avec le gouvernement fédéral. Moi, j'ai bon espoir qu'on va être capable de passer au travers. Donc, on n'est vraiment pas à l'étape où on dit aux gens, faites des opérations là, sans vous protéger. On n'est pas là du tout, du tout. Là.
Non, je comprends ce que M. Legault veut dire. Il ne demande pas aux gens d'aller opérer sans protection. Mais sur le terrain, je vous jure que des infirmières sont allées soigner des patients sans protection, sans toute la protection nécessaire. Elles l'ont fait à leur risque et péril, et certaines sont malades et infectées. Ces infirmières-là avaient demandé de la protection. Elles n'en ont pas eu. Elles ont décidé d'aller au combat pareil. Alors, mais je comprends, mais je ne veux pas contredire M. Legault. Lui, il dit, on ne vous le demande pas. On n'est pas rendu à demander. Il a raison. Mais sur le terrain, ça se fait déjà. Peut-être pas au niveau des médecins, mais au niveau des infirmières, oui. Si vous avez des témoignages, d'ailleurs, écrivez-nous à 25226. On veut le savoir.
On a eu des exemples, ne serait-ce que Rosalie qui nous expliquait à l'urgence là, quand le patient a menti qu'il n'y avait personne au triage pour porter un masque, puis finalement, ça a été implanté par la suite. C'est des cas, il doit en avoir un peu partout au Québec présentement. Sur la question des masques, Sylvain, on en a parlé un peu hier avec Jonathan Bernard et notre collègue Louis Lacroix est revenu là-dessus. La tendance Masks for All, là, ça commence à circuler. Il y a des médecins qui sont en arrière de ça également. La réponse du docteur Horacio Arruda là-dessus.
Le port du masque peut premièrement entraîner, augmenter la distanciation sociale, parce que quand vous voyez quelqu'un qui porte un masque, vous demandez, est-ce que c'est parce qu'il est malade ou il porte en protection, vous vous éloignez. Fait que, dans une perspective, je comprends les questions qui sont posées, dans une perspective, je vous dirais, du contexte actuel où on n'a pas de masque, on doit avoir une gestion serrée. Qu'est-ce qu'on fera quand on en aura des millions à donner? On verra, mais je pense qu'actuellement, on ne peut pas le faire. Puis, est-ce qu'effectivement, un tissu, parce que épais, peut diminuer l'exposition des gouttelettes. potentiellement, mais probablement pas au même taux que le merci jugal. Je sais pas si vous comprenez. Je comprends l'orientation que ces gens-là posent comme question. Puis je vais vous dire, on va le regarder. On va le regarder selon la situation. Mais je tiens à vous dire, ça ne sera jamais l'alternative à une mesure de distanciation sociale. Et puis, parce qu'il faut être capable de le porter adéquatement. Et même en situation de procédure, même en milieu hospitalier, quand le chirurgien fait une opération, si jamais il se contamine en touchant un endroit ou un autre, il y a une infirmière qui le surveille. Donc, vous comprenez, là, que l'importance, oui, le masque peut être un instrument. Oui, le masque doit être donné à des gens qui ont des symptômes en milieu de soins. Oui, le masque est important pour celui qui va donner des soins à quelqu'un qu'on connaît malade. Est-ce que le masque dans la communauté va être l'élément le plus crucial dans la lutte contre la maladie? Je vous dirais qu'il peut peut-être y contribuer par différents effets, même pas physiques, mais psychologiques ou autres. Mais, par contre, dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas faire cette recommandation-là parce que nous allons priver les patients malades et les personnels de soins d'un outil qui est nécessaire.
Anyway, dans le contexte d'une pénurie possible, moi, je ne pense pas qu'on va lancer un appel à Mask for All au Québec. On peut pas. Je sais qu'ils l'ont fait en République tchèque, je sais qu'ils le font ailleurs dans le monde, en Asie, mais là, si on manque de matériel médical, là où on en a le plus besoin... Mm-hmm. Malheureusement, je pense qu'il y a un fondement. Ça pourrait peut-être être utile, mais on fera pas ça au Québec.
Même aux États-Unis, Sylvain, d'ailleurs, là, le CDC a commencé à dire que ça se pourrait qu'ils changent leur directive pour ce qui est des masques. Puis le docteur Arruda, vous l'avez entendu dans l'extrait un peu, là, il met pas ça de côté. Il dit des masques en tissu peut-être, mais évidemment pas les masques qu'on utilise pour les travailleurs de la santé. Qu'est-ce qui va rester de la crise dans le réseau de la santé? Parce que les façons de faire dans le domaine de la santé sont en train de changer, évidemment. Et la ministre de la Santé, Danielle Mécan, a parlé de changements qui vont être durables.
Le réseau est en train de se transformer. Quand je vous parle là, de consultation par téléconsultation, ça n'existait pas là, à peine dans notre réseau. Actuellement, il y a 30 % des médecins spécialistes en 10 jours qui ont implanté leur plateforme de téléconsultation. Il y en a 12 % au niveau des médecins omnipraticiens en 5 jours. Alors, on continue. Et ça transforme l'offre de services. Et ça va continuer par la suite, là, c'est clair. On peut pas tout faire par téléphone ou par téléconsultation, mais on peut faire beaucoup de choses. Et les gens, souvent, préfèrent ne pas se déplacer non plus. Et le médecin peut faire son intervention de cette façon-là.
Je suis convaincu que Mme Mécan a raison et que le réseau sera transformé. Vous êtes d'accord?
Ben oui.
Par contre, l'infirmière qui nous écoute ou le préposé ou le médecin qui rentre à l'hôpital, now, actuellement, là, je suis pas sûr que la transformation éventuelle à long terme du réseau vers le numérique, c'est sa priorité. Lui, là ou elle, tout ce qu'il veut savoir, va-t-il avoir un masque dans 3 jours? Oui ou non? Alors, c'est quand même bon de donner de l'espoir puis de rappeler les points positifs de tout ça, qu'on va tirer des leçons, qu'on va s'améliorer. Mais j'essaie juste de mettre dans la peau de ceux qui s'en vont au front, là, cet après-midi. Je suis pas sûr que c'est leur priorité.
Non, c'est juste que la ministre et Legault s'adressent à tous les Québécois, y compris ceux qui sont pas dans le réseau de la santé, qui eux aussi ont des questions. Fait que sur une période de 45 minutes de conférence de presse, oui. Je peux comprendre pourquoi des fois on va toucher à d'autres sujets, là.
Mais les questions des gens qui sont confinés versus les questions des gens qui vont au front, selon moi, la priorité, là. Puis je l'ai dit, j'ai pas l'intention, moi, de chialer puis de critiquer. Au contraire, il faut aider. Il faut aider notre gouvernement. Il y a un gros risque qu'on en manque. On n'est pas encore là, là. Ils n'ont pas dit pénurie maintenant, là. Ils ont dit c'est serré. Je vais reprendre les termes exacts qu'ils ont employés. C'est serré, puis dans 3 jours, on pourra manquer. Alors essayons de les aider. Essayons de se mettre au travail pour ceux qui le peuvent et qui ont les moyens.
Il y a la question du comité de relance là, qui a été formé par le gouvernement après la crise, bien sûr. Là. Puis ça, c'est dans le Journal de Québec ce matin. Là, on a appris que c'était Pierre Fitzgibbon, Éric Girard, Christian Dubé et Jean Boulay. Il y a une question un peu particulière qui a été posée par le journaliste Marc-André Gagnon au premier ministre Legault cet après-midi.
Monsieur le premier ministre, respectueusement, ben, vous savez, sur les réseaux sociaux, on va passer toutes sortes de commentaires, parfois malheureux, mais les gens, quand ils regardent la composition de ce comité de relance que vous avez créé avec 4 ministres, 4 hommes. Ils se demandent mais pourquoi il n'y a pas une femme. Par exemple, pourquoi Mme Guilbeault, qui est vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, n'est-elle pas impliquée? Donc, je vous donne l'occasion de répondre à ce commentaire que j'ai vu passer.
Oui, bien écoutez, vous savez qu'on est à peu près moitié-moitié au Conseil des ministres, mais Mme Guilbeault va continuer à s'occuper de la sécurité publique. Mais ce qui est important, c'est l'économie. Donc, l'économie, on va avoir des dommages importants Donc, évidemment, ça suppose d'avoir Pierre Fitzgibbon. Évidemment, il va falloir tout financer ça, puis de voir c'est quoi les ressources qu'on a disponibles. Ben, c'est le ministre des Finances. Puis bon, le ministre du Travail, ben, c'est important qu'on ait des travailleurs prêts en toute sécurité à travailler. Donc, comme un hasard, si on veut, que ça soit quatre hommes. Actuellement, la priorité, c'est la santé. Puis c'est une femme excellente qui est là, puis qui est Danielle.
Voyons donc, c'est quoi ça?
Seigneur! Mmh? Quoi?
Non, mais moi, j'ai le droit de parler.
Vas-y, on t'écoute. Vas-y.
La parole est à toi.
La parole est à toi, Élie.
Non, mais écoute, je peux pas croire qu'il y avait... Y a-tu vraiment des gens dans leur salon au Québec qui ont vu la formation du comité de relance puis qui ont eu comme interrogation comment ça se fait qu'il n'y ait pas de femmes là-dedans? Tu sais, je veux dire, c'est ça vraiment la question que vous vous posez actuellement dans la crise qu'on vit? Il me semble que moi, j'ai une couple d'autres questions en tête avant de savoir pourquoi il n'y avait pas de femmes dans ce comité-là, là.
Merci beaucoup. Merci, Élie. J'ai rien à ajouter. J'ai une question pour vous, moi. J'en ai une autre. pour les auditeurs et vous autres. Et je sais que, tu sais, ces temps-ci, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent. Il faut faire attention quand on n'est pas expert. Donc, je ne veux pas nécessairement votre point de vue médical parce qu'on n'est pas docteur. Mais... je veux parler de comportement de société. Et là-dessus, je pense que l'opinion des gens, de tout le monde, ça peut valoir de quoi. Je veux vous demander pourquoi on a plus de cas au Québec. Selon vous. Puis, je vais élargir ça un peu. Si vous regardez dans le monde actuellement, avez-vous remarqué qu'il y a des pays plus touchés que d'autres? Oui?
Oui, moi oui.
C'est clair. Ma question. Est-ce que les pays latins semblent plus touchés? L'Italie, l'Espagne, la France. En Europe, c'est eux autres. Regardez le palmarès en Europe, là. Je sais qu'il y a une proximité géographique qui est certainement responsable de ça, mais c'est l'Italie, l'Espagne et la France les plus touchées, mais l'Allemagne, la Suisse, la Grèce, la Serbie, il y a d'autres pays pas loin, par exemple de l'Italie, où il y a eu l'épicentre, je ne sais pas si vous me suivez, là,
oui.
Qui semblent moins touchés, pays scandinaves ou autres. Ici, on regarde en Amérique du Nord, en tout cas au Canada, et c'est le Québec qui est le plus touché. Alors, on est des Latins. Est-ce que dans notre comportement, notre côté un peu indiscipliné, un peu... comment je pourrais dire ça?
On est insouciant un peu?
Est-ce qu'il y a ça dans notre caractère, dans notre personnalité? On sait qu'il y a des pays, certains pays, où les citoyens sont plus, disons, obéissants, hein, plus disciplinés. Nous autres, est-ce que notre côté plus chaleureux, qui en temps normal peut être perçu comme une qualité, je suis pas en train de porter un jugement, le fait qu'on est chaleureux, on aime les fêtes entre amis, la famille, tout ça, on aime se regrouper, se rassembler, ce qui, pour moi, c'est un avantage. Est-ce qu'en temps de crise, ça nous a pas joué des tours? Et est-ce que ça pourrait expliquer, parce que la semaine de relâche, là, regardez le nombre de vols qui atterrit à Toronto. Des vols internationaux, même pendant la semaine de relâche au Québec, et c'est même pas serré avec Montréal, là. C'est Toronto qui devrait être l'épicentre. Or, c'est Montréal, et c'est le Québec. Puis c'est pas de la faute des Montréalais, là, mais il y a de quoi dans notre comportement, c'est pas une question de blâme, qui peut-être explique ça. Qu'est-ce que les gens en pensent au 25-2-2-6? C'est une réflexion que je veux juste partager avec vous. À un moment donné, des experts se pencheront peut-être là-dessus, mais...
Écoute, c'est difficile, parce que c'est difficile, en fait, à dire. Notre comportement ici au Québec est différent d'ailleurs au Canada, parce qu'on a fait tellement plus de tests que dans plusieurs autres provinces qu'on ne connaît pas, en fait, le nombre de cas réels dans les autres provinces. Puis ce que je trouve un peu...
Il faut faire attention, la Colombie-Britannique a testé autant, ouais. Sinon plus que nous autres, puis ils n'ont pas les mêmes scores, puis ils ont une importante communauté chinoise. Puis là, c'est parce qu'on se compare beaucoup avec l'Ontario, ouais. Mais l'Alberta puis CB, ils ont testé plus que nous autres. Ça peut expliquer en partie, mais pas seulement le fait que c'est vraiment ici qu'il y a le plus de cas.
Non,
on est rendu à la moitié des cas au Canada.
Parce que je regarde le nombre de morts en Ontario, par exemple, en date d'hier, j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais hier, il y avait 33 décès en Ontario, et ici au Québec, en date d'aujourd'hui, on en a 31. Fait qu'à moins que les gens qui attrapent le COVID en Ontario meurent beaucoup plus que les gens ici au Québec, il y a une dichotomie par rapport au nombre de cas total qui sont confirmés.
Mais même là, il devrait en avoir beaucoup plus en Ontario. Si on te suit, Elisabeth, sont beaucoup plus nombreux.
Oui, c'est ça. Il devra, en fait, il y a plus de décès. Il y a plus de décès que nous, mais il n'y a pas autant de cas que nous. Fait que moi, ça me laisse présumer qu'il y a beaucoup plus de cas que ce qu'on pense en Ontario.
Mais c'est parce que là, on regarde juste l'Ontario. Si on regarde Alberta, Colombie-Britannique, puis ailleurs, ils ont testé aussi, et toute proportion gardée, ils ont moins de cas qu'au Québec. Alors, est-ce que, puis je reviens à l'Europe, Elisabeth, regarde en Europe, compare l'Allemagne, des pays d'Europe de l'Est ou des...
L'Allemagne, la Suisse ont quand même beaucoup de cas. Par contre, ce qui est différent, c'est le nombre de morts. Clairement, là, en Allemagne, il y a beaucoup moins de morts que dans les pays latins. Ça, c'est indéniable. Puis il y a certains médecins qui se sont exprimés là-dessus en Allemagne en disant que le peuple allemand, comme d'habitude, faisait preuve d'une discipline de fer. C'est les termes d'un médecin allemand, là. Les Allemands sont un peuple extrêmement discipliné. C'est sûr que quand tu regardes les peuples germaniques en général, là, c'est des peuples qui ont tendance à être plus disciplinés. Les Slaves aussi. En Europe de l'Est, ont tendance à être habitués à suivre les consignes un peu. Les Asiatiques également.
Les Coréens.
Oui, ça c'est certain. Mais probablement qu'il y a un peu des deux. Je pense que dans tout ça, il y a certainement le fait qu'on teste beaucoup au Québec, probablement ça qui explique un peu ça. Et il y a probablement aussi un peu de cette chaleur humaine latine qui fait en sorte que les pays qui ont le plus de cas en général en Europe, tout ça. Ceux qui ont eu le plus de difficultés à déserter les cafés, les restaurants, on pense à l'Italie, on pense à en France où ça a pris vraiment la fermeture parce que les cafés étaient plein, plein, plein au moment où est-ce que le gouvernement Macron a décrété la fermeture des cafés et des bars. C'est sûr qu'il y a un peu de ça, mais à mon avis, là, dans les prochaines décennies, il va y avoir une multitude de thèses de doctorat qui vont être écrites sur le comportement de tous ces peuples-là par rapport à la pandémie, c'est certain.
Et peut-être que notre côté, peut-être que le facteur culturel va rentrer en ligne de compte. Peut-être. Je fais juste le soumettre comme une hypothèse.
Au 25-2-6, il y a plusieurs personnes qui parlent des snowbirds et du retour des vacances. Ici au Québec, on a des gens qui quittent pour l'hiver puis qui reviennent à ce temps-ci de l'année. Que c'est peut-être pas que le retour de voyage en tant que tel est peut-être pas dans la peut-être pas culturel comme dans d'autres pays. Mais en même temps, si tu regardes, ben c'est sûr que si tu compares à l'Ontario, il y a beaucoup moins de gens qui ont atterri à Montréal au cours des dernières semaines qu'à Toronto, à Pearson, par exemple. Fait que c'est difficile de prendre l'excuse des voyages.
Mais c'est ça, même en tenant compte de la semaine de relâche et des snowbirds, ça voyage bien plus à Toronto. Les données sont disponibles. Allez voir. Fait que...
Mais ce qui va ressortir peut-être là, comme facteur le plus important de tout ça, puis ça rejoint un peu ce qui se passe aux États-Unis, tout ça. Qui a pris quelle décision quand? Qui était le leader et qui a pris les décisions et à quel moment? On voit ce que ça donne aux États-Unis, où est-ce que Trump a minimisé pendant longtemps la crise, où est-ce que les consignes divergent d'État en État, de comté en comté, ouais, de ville en ville, ouais, en Europe où les mesures ont été prises très tard, alors qu'ici, ben, les mesures ont été prises tôt, puis il y a un certain leadership. Tu prends les États-Unis, c'est pas un peuple latin, là. C'est des anglo-saxons. Mais le leadership a été soit déficient, soit pas cohérent. Fait que ça fait en sorte qu'on voit une augmentation des cas et des morts présentement.
Mais Sylvain, il y a un bon point au 25-2-2-6 concernant l'aéroport de Pearson versus Montréal par rapport au fait qu'on dit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui atterrissent à Pearson, fait qu'il devrait avoir plus de cas en Ontario. Quelqu'un nous dit les vols internationaux qui arrivent à Toronto sont bondés de Québécois qui doivent prendre un autre vol interne pour arriver à Montréal ou à Québec.
C'est pas tous des gens qui s'en vont résider en Ontario, vous avez raison. Mais on parle de décision, je pense que Jean-Simon avait un bon point. Il y a le facteur culturel et il y a le facteur leadership. Hein? Puis je pense que les deux sont là, ça va s'additionner. Côté leadership, et c'est juste une question. À date, si je regarde la population au Québec, dites-moi si je me trompe, on est dans l'ensemble très satisfait de ce que Legault a fait, le docteur Arruda. Vous êtes d'accord?
Oui.
Bon. Sauf que j'ai regardé la carte région par région encore aujourd'hui. Et... je m'excuse, mais d'abord, c'est Montréal, ils ont plus de 1900 cas. Et quand tu regardes les autres régions maintenant, OK, capitale nationale, là, tu sais, au début, on était 4 ou 5, là, ben ça peut être une bonne nouvelle, mais là, on recule constamment parce que ça se répand. Et après Montréal, là, t'as l'Estrie, t'as la Montérégie, oui, t'as les Laurentides, t'as Laval, toutes des régions, Lanaudière, toutes des régions où il y a moins de monde que Québec, sont toutes en avant de nous autres. Tu regardes la carte, là, puis on serait quasiment en mesure de dessiner des genres de cercles concentriques. Hein? Comme une roche, là, comme une roche qui tombe dans l'eau. Vous savez de quoi je parle?
Oui.
Les cercles, bon. Le Québec, hier, on a eu une bonne augmentation en passant hier. Aujourd'hui, on en a une pas pire. Mais c'est encore relativement stable et épargné par rapport à ailleurs. Et j'ai écouté une entrevue avec la mairesse de Montréal plus tôt ce matin. Elle disait encore qu'il n'était pas question de confiner totalement ou de barrer les accès. Ça, moi, je questionne ça un peu. Là. Permettez-moi, là, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on ne bloque pas plus de façon plus ferme les transports entre Montréal et les autres régions. Regardez la carte, c'est des cercles concentriques. C'est clair que ça part de là, pas parce qu'ils sont pas bons, là. Il y a rien de ça, ce sont des facteurs. L'aéroport, le nombre de personnes, la densité, c'est juste ça. Je dis même pas qu'ils suivent moins les consignes que nous. À la limite, ils suivent peut-être mieux, je sais pas. Mais malgré tout, l'environnement à Montréal fait en sorte qu'il y a plus de cas. Je comprends pas pourquoi on barre pas. Je comprends pas pourquoi les leaders de Québec, on en a ici des maires dans le coin, le demandent pas. J'ai l'impression qu'ils vont le faire. La mairesse a encore dit à Montréal, c'est loin d'être exclu et ça peut changer. Puis elle a comme dit aujourd'hui, on va préparer les gens, on le fera pas du jour au lendemain. Je sais pas si vous l'avez entendu.
Ouais.
On a l'impression qu'elle prépare ça, hein? Mais pourquoi pas le faire? Je sais que ça demande du courage, mais je pense qu'il faudrait le faire.
Ben, je trouverais ça un peu niaiseux, Sylvain, que toutes les maires de toutes les grandes villes, sauf Montréal, prennent la décision de fermer leur ville, mais pas Montréal. T'sais, à un moment donné, c'est clair que les cas les plus nombreux sont là-bas. C'est à eux de fermer leur ville. C'est pas au reste du Québec de fermer, mais on laisse Montréal ouvert, par exemple. T'sais, t'imagines-tu comment ce serait, ça serait contradictoire?
Je sais. Hey, la proportion, Élie, là, à Montréal, il y a à peu près 1900 cas.
Oh oui.
J'arrondis, là. Puis à Québec, 200.
Oh oui.
Fait que, puis c'est un peu plus de 200, là. Fait que c'est pas loin de 2000 puis 200, parce qu'il y en a un peu plus que 1900. Fait que c'est 10 fois plus. La proportion, à 13 heures, tantôt, je l'ai vérifié avec les chiffres les plus récents. Il y a 10 fois plus de cas à Montréal qu'à Québec. Ils sont loin d'être 10 fois plus nombreux, là. Donc, la contamination communautaire, elle est vraiment commencée sur l'île. Mais pour l'instant, on n'annonce rien. Ça me déçoit un peu. Vous en pensez quoi? 25-226?